Charles de Lain, le filleul de la mort. Autant jadis, il advint une fois que la mort s'ennuya. Le vieux faucheur ne manquait point d'occupation, seulement il avait pris sa besogne en dégoût. C'est pourtant une royale besogne, et doit avoir du plaisir à égaler d'un coup de faux les pâtres, les potentats. Mais les gens sont ainsi faits que nul n'est content de son métier. Toujours détruire, se disait le pauvre homme, depuis 6000 ans que le monde est monde, toujours faucher les têtes, quelle existence! Ah, je serais donc heureux de pouvoir me reposer une fois. Dieu le Père s'est bien reposé le 7e jour. Après qu'il eut créé l'homme. Créor, quel divin mot! Le dernier des artisans peut avoir un fils qui lui ressemble, moi seul, je suis condamné à ne jamais revivre dans mes enfants. Pour loyer de 6000 ans de service, Dieu le Père, ô bon Dieu, mais tu devrais bien m'en donner un fils à ton serviteur. « Ne corrige jamais mon œuvre, répondit Dieu le Père. Tu as été mis dans le monde pour détruire, non pour créer. Tout ce que je puis faire pour toi, c'est de t'octroyer la faveur d'être le parrain d'un enfant dont tu rencontreras le Père demain, en revenant de faire ta tournée. » Le lendemain, le mort rencontra Jean-Philippe, le gros censier du chêne Rougon, dont la femme venait d'accoucher d'un 13e garçon. Jean-Philippe, voulant un homme juste pour parrain de son fils, choisit l'universel faucheur, et celui-ci donna à son filleul le nom de Maccabée, qui en arabe signifie cimetière. Chaque soir, revenant de son ouvrage, la mort faisait une visite à son filleul. Il le prenait sur ses genoux, le couvrait de baisers, et lui apportait des coupes sucrées et de petits moulins à vent qu'il avait été acheté en passant à Condé. Et on mit bientôt le jeune garçon au collège et le mort paya sa pension. L'enfant montra une intelligence extraordinaire. À 18 ans, il couronna ses humanités par les plus brillants succès. Il fallut songer à lui trouver un état. « Fais-toi médecin, lui dit la mort. Tu deviendras riche et célèbre, car c'est là une profession qui relève de moi. » La vie est une lampe où l'on ne peut remettre de l'huile. Tu guériras donc point les gens dont la lampe sera épuisée. Mais je vais t'indiquer un moyen de prédire à coup sûr la guérison ou la mort de tes clients. Cela te vaudra une grande considération. Lorsque tu me verras debout au chevet d'un malade, j'y serai visible pour toi seul. Affirme que le malade est perdu. Si, au contraire, tu m'aperçois au pied du lit, réponds hardiment qu'il s'en tirera. Quant au remède, ordonne ceux qui sont à la mode et moque-toi du reste, comme tes confrères de la faculté. Macabre suivit les conseils de son parrain. Il fut bientôt le plus illustre médecin de la Flandre et fit une sérieuse concurrence à Notre-Dame de Bon Secours qui guérit les affligés. Or, il arriva que la fille du roi des Pays-Bas tomba malade. Tous les médecins du royaume furent appelés. Ils s'accordèrent à dire que la jeune princesse mourrait d'une maladie de langueur. Mais aucun d'eux ne put y porter remède. Le roi fit venir le filleul de la mort, et lui promit une tonne d'or s'il parvenait à opérer une cure si difficile. Macabre se baisa pour observer le visage de la malade. Et comme, malgré sa pâleur, la princesse était merveilleusement belle, il en devint tout à fou, éperdument amoureux. Et relevant la tête, il aperçut la mort devant, au chevet du lit. À cette vue, le docteur pâlit. Mais il se remit aussitôt et demanda qu'on le laissât seul avec la princesse. La malade dormait. « Sauvez-la, je vous en prie, mon parrain !» dit Macabre. « Tu sais bien que la chose est impossible, mais je l'aime éperdument. Mais que veux-tu que j'y fasse ? Oh, on a raison de dire que la mort est implacable !» s'écria Macabre. « Oh, mais je saurais, moi, lui arracher sa proie !» Il alla ouvrir la porte et dit au roi: je ne connais qu'un moyen de guérir votre fille. C'est de changer vivement la disposition du lit. Ordonnez qu'on mette le chevet où sont les pieds et les pieds à la place du chevet. Quoique le remède semblât fort singulier, le roi siffla dans un sifflet d'argent, et aussitôt quatre nègres parurent, et ils se hâtèrent de suivre l'ordonnance. Et la mort va ainsi se trouver aux pieds, pensa le docteur en se frottant les mains. La princesse lui échappera, et mon parrain sera bien attrapé. Mais hélas, quelle que fût l'agilité des noirs, le parrain se montra encore plus prompt et la princesse rendit l'âme pendant qu'on tournait la tête. Tous les médecins s'accordèrent à dire que ce mouvement intempestif avait tué la malade en faisant affluer le sang au cœur. Le monarque entra dans une violente colère. Il commanda qu'on saisît le docteur ignorant et qu'on le jeta dans la mer. L'ordre fut exécuté sur le champ. Mais, comme la lampe de Macabre était pleine d'huile, il fut ballotté 3 jours et 3 nuits par les vagues et il aborda sur un rivage inconnu. Macabre maudissait son sort. En perdant la princesse, ses amours, il avait tout perdu. La vie lui était devenue insupportable. Il ne put même point la peine de se lever. Il resta au soleil, sur le sable, attendant la mort. La mort parut. « Que fais-tu là, mon fils ?» lui dit-il. « Je vous attends, mon parrain. Et pour quoi faire ?»« Pour me conduire vers ma princesse. »« Mais ton heure n'est point venue. »« Oh, je saurais bien l'avancer. »« Et comment ? Tu vois bien que la mère n'a point voulu de toi. »« Oh, je connais un monstre plus vorace. Et quel est-il ?
La faim, parrain. L'homme est libre de ne point alimenter sa lampe. »
Le vieux faucheur tressaillit. Il adorait son filleul et ne pouvait se faire à l'idée de le reperdre aussitôt. Il se fâcha, il pria, il pleura, il supplia. Son filleul resta inébranlable. « Voyons, malheureux enfant, dit-il enfin, parle, qu'exiges-tu de moi ?
Macabre ne répondit point. Mais veux-tu de l'or? Veux-tu un boisseau de diamants? Pouvez-vous faire revivre ma princesse? Tu sais bien que ce n'est point mon métier de ressusciter les gens. Alors, d'ailleurs, elle avait le nez trop court. Veux-tu 10 princesses plus belles que celle-là? Macabre baissa les épaules. On voit bien, dit-il, vous n'avez jamais été amoureux. La mort se serait arrachée les cheveux s'il avait eu le crâne chauve et poli comme du verre. Et de colère, il donna un grand coup de faux dans un énorme rocher en murmurant « Maudit faux !» Le rocher se fendit du bas en haut, puis tomba en poussière. Macabre se leva tout à coup. « Oh, je consens à vivre, dit-il, à une condition. Vous me confierez l'instrument qui m'a ravi mes amours. Ma faux ? Mais jamais, Dieu le Père ne le permettra. En ce cas, laissez-moi mourir en paix. » Et il se recoucha sans plus vouloir répondre. N'est-ce pas, Dieu le Père, que cet enfant demande l'impossible ? S'écria la mort avec désespoir. Accorde-lui sa demande, répondit Dieu le Père. Dieu le Père était las d'entendre les hommes récriminer sans cesse contre la mort. Il voulut condescendre à mettre une fois pour toutes la grande faux à la disposition d'un mortel. Eh bien, prends-la, dit la mort à Macabre. Mais jure-moi que jamais tu n'en serviras contre toi-même. Macabre le jura, prit la faux et s'en alla. Le filleul de la mort était naturellement bon et sensible. Et le malheur ne l'avait point aigri. Il avait exigé la grande faux qu'en vue de faire le bien à ses semblables. « Oh, je faucherai, s'était-il dit, ceux qui demanderont à mourir, à qui la vie sera à charge, aux autres. Je ferai le bonheur du genre humain. Ça m'aidera à oublier mon malheur. » Il ne tarda point à rencontrer, sur le bord d'un fossé, un vieux pauvre, perclus de tous ses membres et rongé par la vermine. « Oh mort, quand viendras-tu me délivrer ?» s'écria le vagabond. « Tout de suite, répondit Macabre. » Et d'un bon coup de faux, il le délivra. Mais l'âme ne fut point plus tôt séparée du corps qu'elle murmura « Qu'aucun ne sort !» Un corps se serait peut-être guéri, et qui sait si nous ne serions point devenus riches. Ben, voilà qui me servira de leçon, se dit le faucheur. Je suis suffisamment édifié sur les plaintes des hommes et leur dégoût de la vie. Et il se remit en route. Comme il passait par un village, il aperçut sur le seuil une chaumière une paysanne qui tenait dans ses bras un enfant si malingre, si chétif et si fait laid qu'il faisait peine à voir. Ses jambes n'étaient pas plus grosses que ses bras, et ses bras que ses doigts. Il ne pouvait se tenir debout, et sa respiration semblait une suite de gémissements. « Pauvre petit sec et rond !» disait la mère, « Quand viendras-tu quand je ne serai plus là? Oh, le bon Dieu ferait bien de te rappeler à lui. » Le faucheur l'entendit, et cette fois crut sagement agir en délivrant d'un seul coup la mère et l'enfant. Mais quand la mère vit son fils mort,
sa douleur fut bien autrement vive. La malheureuse femme en devint folle, car elle aimait cet enfant 10 fois plus qu'elle n'en aurait aimé un autre. Elle l'aimait pour toutes les peines qu'il lui avait coûtées, et d'autant plus qu'il était plus faible et plus laid. Macabre réfléchit. « J'ai fait fausse route, se dit-il. Le meilleur moyen de rendre les mortels heureux, ce n'est point de les délivrer de la vie, c'est de les délivrer des méchants. Et pour être plus certain de ne point se tromper, il revint en Flandre où les hommes lui étaient connus de longue date. À cette époque, il y avait à Maubeuge un bourgmestre dont la mauvaise réputation s'étendait à 10 lieues à la ronde. Ce bourgmestre ne se servait de sa puissance que pour commettre le mal, à ce point qu'on disait, en commun proverbe, « Dieu nous garde de la guerre, de la peste, de la malmort et du bourgmestre de Maubeuge. » C'est par lui que le filleul de la mort résolut de commencer le cours de ses exécutions. Et il le trancha dans sa fleur comme on arrache une plante vénéneuse. Macbeth se figurait que son coup de faux allait être salué par les bénédictins de toute la ville. Et grande fut sa surprise quand il vit accourir aux obsèques du défunt la foule de ceux qui l'abhorraient, naguère. Bien plus grande encore, quand il entendit prononcer sur sa tombe de magnifiques jours où les vices les plus odieux étaient transformés en vertus éclatantes. Cette dernière expérience acheva de le décourager. Il se décida à s'en retourner vers son parrain et à lui remettre cette faux dont il n'avait pu parvenir à faire un bon usage. Cependant, le bruit s'était sourdement répandu que Macabre du chêne Rouault disposait d'un pouvoir surnaturel dont il se servait pour purger le monde des méchants. Or, la ville de Condé était alors en proie à un juge hypocrite qui, sous le masque de la dévotion, rendait la justice à faux poids. Il craignit que Macabre ne le punît de ses prévarications et songea à prévenir l'arrêt de la faux vengeresse. Il le fit arrêter et traduire à son tribunal. Le faucheur aurait pu terminer le procès d'un seul coup, mais il voulut voir jusqu'où irait la méchanceté des hommes, dont il n'avait cherché que le bonheur. La grande faux fut saisie et figura au procès comme pièce de conviction. En moins d'une heure, les bienfaiteurs de l'humanité furent accusés de sorcellerie, jugés et condamnés à être brûlés vifs. Le jour de l'exécution, la place de Condé fut envahie par une foule d'honnêtes gens qui se réjouissaient d'assister à un si beau supplice. Seulement, il commanda qu'on saisît le juge prévaricateur et pour le punir d'avoir si mal tenu la balance de la justice, il en fit forger une en fer et haute de 20 pieds, et il la suspendit au bec du coq qui penche au bout du clocher. Dans un des bassins, il plaça le juge et ses crimes dans l'autre. Oh, le premier bassin fut enlevé tout de suite jusqu'au fléau par le poids du second. Et Macabre condamna le magistrat abominable qui avait murmuré tant de patenôtres pour rire, à prier pour de bons jours et nuits jusqu'à ce que les deux bassins fussent de niveau. On assure que la balance est toujours en haut du clocher, mais que les paysannes de Fresnes, de Vieux-Condé, de Matlou et de Tinversel ont beau écarquiller les yeux en allant au marché, elle ne voit jamais bouger le bassin au juge. Tous les 100 ans, le bassin baisse, dit-on, d'une ligne. Il n'est encore qu'à mi-route. Décidément, pensa Macabre, oh, je ne me mêle plus de faire le bonheur des hommes. C'est là un métier de dupe. Et j'ai éprouvé par moi-même que tout bienfaiteur mérite sa punition. Désormais, je ne veux me servir de ma faux que pour ma propre félicité. À moi les honneurs et la puissance. Le roi des Pays-Bas s'est assez mal conduit envers vous. Commençons par le dégager de son trône et mettons-nous à sa place. On doit y être plus à l'aise sur la grande place de Condé. Il partit donc, précédé de sa renommée. Le roi des Pays-Bas s'enfuit à son approche et Macabre trouva les portes du palais toutes grandes ouvertes. Il monta sur le trône, ceignit la couronne, et fut proclamé roi par les habitants des Pays-Bas. Il notifia aussitôt son avènement à tous les souverains de la terre, en les appelant de leurs cousins, ses chers cousins. Mais les souverains ne voulurent point admettre dans leur famille un vagabond qui avait été brûlé comme sorcier sur la grande place de Condé. Ils avaient bien ouï parler du pouvoir de Macabre, mais ils n'en croyaient point un mot, et ils renvoyèrent ses ambassadeurs de la façon la plus méprisante. Et Macabre leur déclara la guerre. Le général en chef de son armée vint lui offrir ses services. « Oh, j'ai pas besoin de vous !» lui dit-il. Et de fait, il parut seul avec sa faux. Tous les rois de la terre rassemblèrent leurs troupes dans une plaine immense et attendirent de pied ferme le roi des Pays-Bas et son armée. Jamais le soleil n'avait vu une pareille réunion d'hommes de guerre. Il y en avait de toute espèce, depuis ceux qui marchent nus jusqu'à ceux qui ne vont que sous une carapace de fer, depuis ceux qui se battent à pied jusqu'à ceux qui combattent à cheval ou montés sur des éléphants, depuis ceux qui dardent des flèches et des javelots jusqu'à ceux qui lancent des balles, des boulets et des bombes. Et quand les rois virent arriver Macabre seul, et sa faux, ils éclatèrent de rire et lui envoyèrent mander s'il le prenait pour un champ d'orge. « Oh, rira bien qui rira le dernier, » répondit le filleul de la mort. « Vous pouvez donner le signal de la danse. » Alors les ennemis lui décochèrent aussitôt une grêle de dards, de flèches, de balles, de boulets, de bombes, d'obus, de grenades et d'autres projectiles, mais il s'avançait là-dessous, sans plus en souffrir qu'un berger qui ramène ses moutons sous la... Il s'amusa même, dit-on, à reclasser les balles avec la main. Alors il ôta son habit, retroussa les manches de sa chemise, et pareil à un fraîcheur qui entre dans un pré, il pénétra dans les rangs et l'imita, luché avec sa grande faux d'un mouvement régulier. Il abattit 1000 têtes d'un coup, et au bout d'une heure de cet exercice, s'il n'était non plus fatigué que s'il avait fauché que de l'herbe, et les ennemis tentèrent de s'enfuir. Mais comme ils s'embarrassaient les uns dans les autres, et que Macabre, avec sa faux, devançait les chevaux les plus rapides, il leur resta d'autre ressource que de se jeter à ses pieds et de demander grâce. Le vainqueur leur pardonna à la condition que les uns, rois vaincus, lui rendraient hommage. Il fut nommé sur le champ de bataille empereur de l'univers et devint par cette seule victoire plus puissant que n'ont jamais été Alexandre, César et Napoléon. Sur le sommet de la plus haute montagne du globe, il fit construire un immense palais étincelant d'or et de diamants et s'y enferma dans sa gloire. Les rois vaincus sollicitèrent l'honneur de le servir à genoux et Sa Majesté Macabre Ier fut adoré comme un dieu par tous les peuples de la terre. Il passait sa journée sur un trône d'or massif, ce qui doit être une manière bien agréable de passer la journée. Il portait une énorme couronne d'or de 3 coudées, garnie d'émeraudes et d'escarboucles, et il tenait d'une main le sceptre et de l'autre le globe impérial. Derrière lui étaient placés ses gardes par rang de taille, depuis le plus petit nain jusqu'au grand comme mannequin de pisse, jusqu'au géant haut de 10 pieds. Et il le portait, il ne sortait que dans un palanquin porté par des rois et précédé de 100 tambours. Les champs, les coteaux, les forêts, les lacs, les mers du monde entier étant mis à contribution pour approvisionner sa table. Et il ne dînait qu'au son d'une musique délicieuse. Sa Majesté mangeait de la tarte et buvait de la bière de Lorraine à chaque repas. Pareil au roi Salomon, Macabre possédait 1000 femmes d'une rare beauté et, comme d'un geste il pouvait les faire mourir, il avait à les gouverner moins de peine que chacun de nous n'en éprouve à gouverner la sienne. Il arrivait quelquefois de les battre pour se distraire, et chose étonnante et presque incroyable, pas une ne le trompait. Tout tremblait devant lui. Pourtant, il n'avait sous les yeux que des figures souriantes. Et quelque mal qu'il commit, il n'entendait que concert de louanges. Si jamais homme goûta le bonheur, à coup sûr cet homme dut être Macabre. Hélas, non. Macabre n'était point heureux. Il ne lui manquait qu'une chose, une seule. Oh, une chose bien commune et que peut posséder le dernier des hommes, et même des animaux. Il n'était point aimé, et n'aimait personne. Cela suffisait à empoisonner toutes ses jouissances. Il voyait le sourire sur les lèvres. Il sentait bien au fond des cours. Il n'avait point d'amis, il n'avait que des valets. Si jamais homme goûta le bonheur à coup sûr, cet homme dut être Macabre. Mais non, Macabre n'était point heureux. Il ne lui manquait qu'une seule chose, une seule chose bien commune que peut posséder le dernier des hommes et même des animaux. Il n'était point aimé et il n'aimait personne. Cela suffisait à empoisonner toutes ses nuisances. Il voyait le sourire sur les lèvres, et il sentait la haine au fond des cœurs. Il n'avait point d'âme, il n'avait que des valets, aucun ami. La peur faisait ramper le monde entier à ses pieds, et cette bassesse universelle soulevait son mépris et causait son désespoir. Il aurait donné l'empire de l'univers pour qu'un de ses flatteurs osa une seule fois lui dire la vérité en face. Supplice épouvantable pour un homme que l'amour avait conduit à cette extrémité de vouloir être aimé, adoré comme un dieu. Un soir, enfin, las de toutes ces grimaces, de tous ces mensonges, de toutes ces bassesses, de toutes ces haines, Macabre dépouilla son manteau impérial, revêtit des bottes de paysan, prit la fatale faux et sortit de son palais par une porte dérobée sans rien dire à personne. Il s'était enfui comme un malfaiteur de crainte d'être reconnu et ramené à son trône. Il ne cessa de marcher que quand il fut arrivé à lui de la hutte où la mort se reposait et les bras croisés. « Oh, tenez, mon parrain, dit-il, reprenez votre faux et laissez-moi vivre comme le dernier des mortels. Je serai plus heureux. » « Ainsi soit-il, répondit la mort, et il se remit sur le champ à sa besogne. Macabre ne voulait même plus exercer la profession de médecin, qui lui rappelait trop en ses anciennes puissances. Il se fit cultivateur pour profiter enfin, après avoir tant détruit. Il s'établit au hameau de la Condrevaux, épousa une honnête paysanne et en eut 2 enfants, 10 enfants. Le filleul de la mort vécut jusqu'à près de 200 ans. C'est le cas de longévité le plus remarquable qu'on ait vu depuis les patriarches. Sur ses vieux jours, il racontait quelquefois sa merveilleuse histoire au petit-fils de ses arrière-petit-fils, qui en riait doucement et pensait que le bonhomme racontait, car les gens, alors, étaient déjà comme ceux d'aujourd'hui. Il rit de tout et ne croit plus à rien.